Bonjour, c'est Alban Penaranda des Nuits de France Culture. Pour célébrer les 60 ans de notre chaîne, je vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines archives iconiques distinguées par de prestigieux prix. Des émissions qui ont marqué leur époque et l'histoire de la création radiophonique.
Nuit magnétique, bonsoir. Jean Dumarais, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Gerbault, Jean-Pierre Milovanov. Si les marais mouillés du Poitou, comme tous les marais du monde, exercent une fascination jamais tout à fait surmontée, c'est qu'ils semblent résoudre sur un mode primitif une contradiction ancienne entre l'instable et l'immobile, le stagnant et le fugitif. Comment se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, quand rien n'est certain, rien n'est fixe, que les eaux viennent et se retirent selon des plans mystérieux, et que le paysage autour de soi, mélange de terre, d'eau, de ciel et de feuilles, paraît refléter à l'infini un principe d'indécision. Ce pâturage devant nous, cette pépinière, demain seront inondées, ce tertre sera une île ou un écueil, ces berges disparaîtront. La création ici n'est pas achevée, elle se poursuit ou s'effiloche lentement, insensiblement. On la voit encore hésiter, entre la boue et la lumière. Pour aller au cœur de ce paysage ambigu, pour pénétrer cette hésitation, cette lenteur, il n'existe qu'un instrument, la barque à fond plat, appelée ici un bateau, qui seule s'accorde à l'espace et à ses embûches nombreuses. Sauter dans la barque, partir, dériver le long des feuillages, comme nous allons le faire ce soir, ce n'est pas seulement découvrir un lieu à partir de son secret, c'est retrouver des images arrachées au temps et rencontrer au fil de l'eau les hommes pour qui elles furent, un jour ou l'autre, la vie elle-même, hésitante et effilochée entre la boue et la lumière. René Maté.
Il ne faut jamais craindre, lorsqu'on parcourt le pays, de prendre les petits chemins, d'aller dans les cul-de-sac, de s'enfoncer en dehors des grands itinéraires, hein, d'aller voir là où le maraîchin, qui était à la fois le pêcheur, qui était à la fois le petit paysan qui avait 2 ou 3 hectares en plaine et aussi 2 ou 3 hectares dans le marais, vivait de la pêche, de sa culture, de la prairie, etc. Donc les habitants, l'habitat lui-même, il est le plus typique dans ces zones en creux. Et on retrouve les maisons accrochées aux coteaux, c'est-à-dire qu'elles ouvrent à la fois, lorsque vous êtes en bateau, hein, chaque maison avait son port, sa cale, et on arrive chez soi en bateau, c'est-à-dire qu'il y a ce marais derrière, qui est le marais de planté, là, où on pêche l'anguille, la carpe, enfin, etc. Là, il y a toutes ces natures là, de production. Et où la maison, elle, donne à la fois donc, sur ce marais en creux et sur le coteau. Elle est juste vraiment à la rupture de pente. Et les villages s'organisent de cette façon. C'est-à-dire que lorsqu'on lit une carte, ce sont des villages-rues où on s'aperçoit qu'il y a d'un côté la route qui dessert le haut du bourg avec les institutions, la mairie, l'église, etc. Puis en creux, effectivement, la voie d'eau, la rigole, la conche, comme on l'appelle chez nous, et chaque maison est posée entre les deux, ouverte, je répète le mot de charnière, d'articulation entre les deux milieux.
Claude Chollet.
Dans le Marais, chaque ferme, chaque maison n'a pas forcément son garage, mais a son port. Voyez-vous, nous avons les rivières comme celle qui est juste à côté ici, où vous avez un fil de courant, qui est elle une rivière communale, et où sont les barques ici. C'est un port privé, c'est mon port qui sert de garage, si vous voulez, pour mes barques. On va prendre cette barque qui fait 15 pieds. Tous les bateaux, c'est des barques à fond plat, elles sont toutes mesurées par pied, qui est une mesure anglaise. Donc vous avez celles-ci qui font 13 pieds. Bon, nous sommes 4 pour être à l'aise, on va prendre une plus grande, une 15 pieds. Alors, nous allons pousser à la perche, à la pigouille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond ici. Et la barque glissera mieux avec une pigouille qu'avec une pelle. Nous avons un léger courant. Donc, on va s'asseoir plus à l'aise avec une pigouille qu'avec une pelle. Voilà. Je me mets à l'arrière. Alors, l'arrière de nos barques, contrairement aux bateaux de mer, c'est le pointu qui est à l'arrière. Voyez-vous, c'est le gros bout qui va devant. Ce qui nous permet, à nous, bateliers, de diriger notre barque dans l'axe. Soit l'on pousse du côté gauche, soit du côté droit. C'est la main de l'homme. Il y a des droitiers, des gauchers. Alors, nous poussons à l'arrière dans la pointe. Voilà. Et voilà, alors nous allons remonter le courant pendant quelques centaines de mètres et ensuite on descendra le courant. Alors nous allons donc faire une promenade dans le marais Poitevin, mais je vous le dis tout de suite, nous n'en ferons qu'une petite partie puisque vous le savez, nous avons des centaines de kilomètres de rivière. Vous avez ici le petit village qui est à notre gauche, qui était une île à l'époque du lac, du golfe. C'était l'île Don, qui était toute petite, puisqu'il y avait environ 7 ou 8 foyers, donc c'était tout petit. Mais cette île existait comme beaucoup d'îles, comme l'île de Maizé, comme l'île d'Elle, comme toutes les îles qui sont dans le golfe et où on trouve à l'heure actuelle tous les villages. Tous les villages du Marais Poitevin sont placés sur des îles qui existaient à l'époque du golfe. Vous êtes ici dans un pays qui est bien marqué dans le marais, puisque c'est Saint-Hilaire, la palue, donc on pourrait parler paludisme. Il est exact qu'il y avait le paludisme était un petit peu lié, mais enfin, c'est pas le vrai paludisme qu'on peut connaître en allant faire les pays étrangers. Mais quand les ours ont été sur le terrain tout l'hiver, que ces ours partent, ou partaient, parce que maintenant les crues sont beaucoup plus rapides, mais partez au mois de février-mars, or que le soleil avait commencé de rayer, vous aviez une odeur, il y a resté un limon sur le terrain, qui avait une odeur extrêmement forte, et il faut reconnaître que certaines personnes étaient plus ou moins indisposées à cette odeur et faisaient plus ou moins des fièvres. Donc c'est peut-être de là qu'est créé ce paludisme. Mais autrement, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de piqûre qui provoque le paludisme. Il n'y a pas le paludisme, comme on pourrait l'entendre. Du reste, dans le marais, ici, chez nous, il n'y a pas de moustiques. C'est inconnu des moustiques, c'est pas inconnu. Il y en a bien un ou deux. Mais enfin, par rapport au bord de mer, par rapport à où vous voudrez, il n'y a pas de moustiques. Et où, l'éclosion ne se fait pas, nos rivières étant toutes couvertes de ces lentilles d'eau, le soleil ne pénétrait pas, et l'éclosion n'a pas lieu.
Mais alors, il y a un équilibre aussi qui s'établit. On prête à l'aule, le verne, tiens, le petit verne qu'on a en face de nous, là, de détruire un certain nombre d'insectes. Ce qui fait que ces insectes tombant dans l'eau, très souvent, au pied des vernes, il y a des perches qui sont là.
Jacques Cardinaux.
Alors, les fins pêcheurs de perches, parce que nous, en définitive, on n'a pas plus faim comme chair de poisson que la perche ici. Là. C'est, la truite ne vit pas, là. Les eaux ne sont pas assez vives.
Alors ici, nous étions sur un écluseau et nous allons prendre sur une conche ici, nous allons prendre l'écluseau ici où nous sommes. Et ce sont des appellations, vous voyez. Il a été creusé à la main de l'homme, là, il est tout droit, vous voyez, par rapport où nous étions tout à l'heure, où c'était déjà beaucoup plus sinueux. Mmh. Et au bout, nous allons reprendre une conche qui communique.
Tous les villages du Marais mouillé sont construits de la même façon, ou peu s'en faut. Une longue rue bordée de maisons, dont l'arrière donne sur une voie d'eau. Celui qui arrive par la route voit des façades. Celui qui vient en barque rencontre les gens.
Cette partie du village, effectivement, s'étire parallèlement à la rivière. C'était une voie de circulation très, très utilisée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, comme vous le voyez, à chaque limite de propriété, il y a un petit fossé qui permettait d'aborder très près de la maison.
C'est très large ici, alors qu'à d'autres endroits, c'est beaucoup plus droit.
Oui, mais là, c'est une conche principale. C'est une conche qui est du domaine communal, je pense. Ah oui, elle est du domaine communal. Et puis, ben, il faut dire qu'elle s'élargit, toujours, petit à petit. Comme je vous le disais hier, on y fait passer l'eau trop vite maintenant. Alors les berges se dégradent et on ne trouve plus ces essences qui, par leurs racines, tenaient le pied des berges. Il n'y a plus que très peu d'aulnes, là il y en a encore quelques-uns. D'ailleurs on le voit tout de suite, là la conche se rétrécit, là plus loin, là, au pied de ces aulnes qui sont là. L'aulne a la propriété de plonger ses racines dans l'eau. Alors il tient la terre en même temps. L'urbanisme de, pour employer un grand mot, de cette partie de l'agglomération s'étire le long de cette conche-là. Ce qui fait que les habitations ont toutes un accès direct avec les voies d'eau, puisque la voie d'eau était le moyen de transport principal à l'époque. Et par un curieux effet de... je ne sais pas si... c'était une forme d'émulation. Il y avait effectivement beaucoup de familles nombreuses qui habitaient dans ce secteur-là. Nous étions de grandes équipes à sortir de chaque maison pour aller à l'école le matin. Et bien sûr, l'attirance de l'eau pour les enfants a toujours été quelque chose de très fort. Et il était difficile d'ailleurs de passer notre enfance ailleurs que dans les barques et pieds nus et d'aller à l'école avec les orteils tout noirs. Ça faisait partie de la vie normale. L'instituteur, de temps en temps, en montrait un qui avait les pieds sales, mais il aurait pu faire déchausser toute la classe, tout le monde a les pieds sales. Alors, le gros problème résidait forcément chez les petits. Les petits, il fallait quand même éviter qu'ils n'aillent jusqu'à l'eau tout seuls. D'autant plus que les mamans lavaient leur linge là, vous voyez, à cet endroit-là. On mettait un garde-genou qui, avec une courbe qui plante qui penchait dans l'eau, quoi. Et elle avait le linge, là, avec le battoir, comme autrefois. Enfin, tout le monde lavait son linge ici, dans la journée. Alors, les enfants accompagnaient parfois la maman au lavoir, mais toujours, la maman disait « Attention, n'approche pas trop près, parce que si t'es tout seul, un jour, le grand bras rouge viendra, il sortira sa grande main de l'eau, et puis te tirera, il t'emportera, et nous, on n'aura plus de petits enfants. »
Bon, je vais essayer alors donc de mettre le feu à l'eau ici. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment de vases. On va essayer de faire après. Vous avez vu le feu dans l'eau? Oui, ça brûle, oui. C'est du feu. Les feuilles tombent au mois d'octobre et vont couler et forment un tapis au fond de la rivière avec les feuilles de peupliers qui sont très larges. Ils sont recouvertes, vous voyez ici, nous avons nettoyé la surface de l'eau avec un focardage. Donc ces feuilles vont tomber au fond, vont s'agglutiner. Et de ce fait, nous allons avoir les feuilles recouvertes au fond qui vont faire une couche qui va pourrir et qui ne pourra pas s'évacuer de son gaz. Donc dès qu'on la brasse avec la perche, la pigouille, nous ressortons ces gaz qui sont des gaz de méthane, c'est tout, hein, et qui s'enflamment à l'arrivée sur la surface de l'eau.
Alors à notre droite, là, on a une partie du marais qui a été découpée en tâches de jardinage. C'est comme ça qu'on appelle chaque petite parcelle qui va de 3 à 8 heures et distribuée il y a à peu près un siècle. À chaque famille du pays. Et ici, là, malheureusement, on n'en voit plus la trace. C'était le lavoir des personnes qui habitent dans le bourg. Et entre les commentaires qui pouvaient se tenir, comme chacun le sait au lavoir, et les discussions autour des tâches de jardinage, eh bien, il n'y avait pas d'informations qui ne soient communiquées à une vitesse assez surprenante, puisque c'était à qui saurait les nouvelles le premier, les nouvelles du pays, bien sûr. Alors là, on va aborder le site industriel. Dont l'emplacement avait été commandé par la pratique qu'on utilisait couramment, jusque quelques années encore, de ramener les billes de peuplier par flottage, par l'entrain de, on appelle ça des radeaux, des entrains de bois, aller tirer par des hommes. Alors les billes de bois arrivaient au pied de l'usine, et puis elles étaient sorties de l'eau au fur et à mesure des besoins. Et on va prendre la grande rigole, qui est notre canal évacuateur. C'est en définitive le dernier ouvrage important qui a été fait dans les marais mouillés. Et c'est un canal qui est parallèle à la Sèvre. Alors c'est surtout sur la rigole que l'on compte pour évacuer les crues de printemps, quand les manœuvres sont bien faites, parce que l'entrée de la Sèvre est fermée par des portes qui permettent de faire évacuer l'eau en amont à un niveau supérieur à celui de la rigole. Et si on laissait l'eau du niveau de la Sèvre au niveau où elle passe se répandre chez nous, ça serait la crue du premier coup, quoi. Donc là, ça permet d'évacuer un contingent d'eau à une altitude supérieure à nos terrains, sans trop de dommages. Quand les manœuvres sont bien faites et bien coordonnées, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce que on a malheureusement eu, et ça c'est pas pour critiquer les employés des eaux, mais on a souvent eu les gros coups durs pendant les week-ends. Alors vous savez, aujourd'hui, ça chacun, ça va. Quand il a sa carrière, il est partout ailleurs. Ici, il n'est pas de service, il ne risque pas de venir manœuvrer les portes. Alors, de temps à autre, on rencontre un chêne. Un chêne qui a poussé comme ça, tout seul. C'est-à-dire, les oiseaux ont laissé tomber des glands au passage. Et il paraît qu'avant d'être organisé en plantation de peupliers et de frênes, le chêne était assez... Enfin, il y avait pas mal de chênes, quoi, là, dans le secteur. Hein. C'est pas du très beau bois.
Il y a une technique particulière de la pelle.
Ah oui. On la met dans l'eau, on pousse, et quand on la retire, on se sert du bras de levier pour ramener l'avant de la barque dans l'axe. Parce qu'il faut considérer que la barque est sur un pivot, à peu près en son centre. Là. En ne conduisant que d'un seul côté, bien sûr. La barque devrait tourner ou d'un côté ou de l'autre, mais enfin elle devrait tourner, quoi. Alors, on a un petit coup de poignet là qui va revenir. Et de temps en temps, on l'accentue un peu là.
Non, c'était un rat, sans doute.
Qu'est-ce que c'est ?
Un rat, j'avais cru que c'était un rat grondin. On l'aurait vu. C'est pas l'heure pour les animaux, vous le savez. Tu vois, on n'entend pas beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'animaux. C'est le matin très très tôt.
Quels animaux ?
Oh, ben, tous les animaux qui vivent dans la nature. Tous les petits passereaux et autres sont là. Les palombes. Énormément de palombes, de tourterelles. Les corbeaux, les pies, c'est quand même partie de la nature. Tiens, regardez, un rat, deux rats qui partent à l'avant, sans des rats grandins. Peut-être rentrer dans leur Il y a 3, 4, c'est un nid, vous voyez. C'est une nichée de rats. Celui-là, il est mort. Vous voyez ? Voilà, j'ai détruit un animal. Vous ne l'aviez pas vu ? C'est un ragondin. Et ça fait énormément de dégâts dans les cultures. C'est un jeune, un tout jeune, qui est de cette année. On va le mettre sur la pelle. Bête.
Les ragondins ont fait l'apparition, leur apparition dans notre marais.
Francis Panetier.
Et ils prolifèrent énormément. Et ils font énormément de dégâts dans les cultures de maïs surtout. Et puis dans le marais, ils font des galeries dans les berges qui ramènent la terre dans le cours d'eau. Et ça, c'est préjudiciable. Alors le ragondin, il fait un trou dans la berge et il sort en surface par le milieu du terrain à 2 mètres du bord à peu près. Ce qui est très dangereux pour les animaux ou pour les gens qui passent à côté, parce que le trou fait à peu près 1 cm de diamètre. Ça fait déjà un beau trou. Et un animal qui tombe dedans, ben, il peut se blesser, se casser une patte même. Il y a deux façons de dépiéger. Avec le piège à mâchoire, qui entraîne quand même certains inconvénients. Le piège à mâchoire peut prendre un faisan dans nos marais, peut prendre un canard, peut prendre un pied vert. Et forcément, même qu'on le lâche, il est blessé. Et d'autre part, il n'est pas efficace. Parce que maintenant, avec la nouvelle loi, il y a 5 mm entre les mâchoires. Et contrairement à ce que le législateur a pensé, au lieu d'empêcher l'animal de souffrir, il le fait beaucoup plus souffrir. Parce que quand le piège à mâchoire est juste, il neutralise le membre, l'animal ne peut pas tourner, il ne souffre donc beaucoup moins que quand il peut tourner dans ses 5 mm. J'ai trouvé des ragondins ou des rats musqués, l'ondatra, seulement la patte, parce qu'il s'était rompu la patte. Et il est voué à mourir en souffrant par gangrène et ainsi de suite. Alors, je n'emploie pas le piège à mâchoire. J'emploie la nasse. La nasse a cet avantage, c'est que si je prends un faisan qui va manger ma carotte avec laquelle j'ai appâté, je le relâche. Si je prends un pied vert ou un canard, je le relâche. Et l'animal qui est dedans ne souffre pas. Vous allez peut-être me demander comment je l'abats aussi. Eh bien, je suis dans le marais et je le fais noyer. Parce que c'est la façon la moins douloureuse. Parce que quand on se noie, personnellement, je peux en causer parce que j'ai déjà perdu deux fois connaissance, moi, en me noyant, j'ai été sauvé.
Comment ?
Oui. Et je peux vous dire que on boit, on perd connaissance, et ma foi, c'est fini. Et c'est ce qui arrive à mes animaux que je prends, que je capture. Il faut exactement 12 minutes pour faire noyer un ragondin.
sauter dans la barque. Partir. Dériver le long des feuillages. Découvrir un lieu à partir de son secret. Toujours des peupliers, des aulnes. Le vent léger. Le silence aussi nous appartient, comme plus tard l'oubli. Pour nous conduire à travers le marais, des chants d'oiseaux, des voix et quelques images arrachées au temps. Un temps de profusion où toutes les espèces, tous les règnes coexistaient. René Louis, maître de digue.
Il y a des canaux, il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des céréales, il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a un peu tout.
C'est vrai.
On voit quand même l'hiver, on voit quand même des oiseaux de toute espèce qui passent par chez nous. Il y en a quand même des nids qui se forment chez nous. On a moins depuis qu'ils ont fait des réserves, là. Les réserves qu'on a vues, on a quand même moins d'oiseaux chez nous qu'on avait il y a 25 ou 30 ans. Parce qu'ils vont faire un nid là-bas, ils restent sur place. Mais avant, on avait quand même des milliers de canards chez nous, de toutes sortes de canards. À cette époque, là, vous pouviez aller dans les prés, il y avait des canards dans pas mal de fossés. Et des canards qui s'envolaient. Le braconnage existait. Des braconniers, mais enfin, c'est-à-dire chasser la nuit. Ah oui, ça c'était beaucoup. Ils chassaient la nuit, ils chassaient avec une vache qui était dressée. Quand je vous montrais le communal tout à l'heure de Nallier, là, quand il y avait 30 ou 40 cm d'eau dessus, il y avait des nuées de vanneaux et de canards dessus qui se posaient. Des milliers, c'était des milliers. Bon, si vous y alliez seul avec un fusil, tout le monde partait. Mais les oiseaux sont habitués aux animaux. Le paysan dressait une vache qui marchait en fonction de son canon de fusil. Il touchait d'un côté, elle allait d'un côté. Il touchait de l'autre, c'était de braves bêtes, elle allait de l'autre. Et lui, il marchait dans le profil de sa vache. Arrivé à 25 ou 30 mètres, il tirait un ou deux coups de fusil. La vache ne bougeait même pas. Et ça a été autorisé, ça. Voyez-vous, c'était autorisé dans les communaux très très longtemps. Ils ont été très très longtemps avant d'être verbalisés. Enfin, disons que la génération actuelle, personne ne s'en occupe de ça. Mais ça existait, hein. Moi, j'ai vu des chasseurs avec des pleins sacs, des sacs à grains, pleins de canards, dans une nuit. Un plein sac, vous savez, des sacs de 100 kilos, là. Plein. Ils expédient ça sur la Rochelle pour un petit prix. Ben, nos marais étaient trois quarts inondés à l'époque. Couverts par l'eau. Tout le gibier qui venait de Belgique, qui venait du Nord, ils se reposaient chez nous en passant. Et les chasseurs en profitaient. Et à l'époque, on chassait avec un calibre 8, et pas un calibre 12 comme moi, 8 et 10, des canons qui bourraient avec une baguette. Ils tiraient un coup de fusil, ils me déchargeaient à la maison, tellement ils avaient froid. Moi, j'ai vu les chasseurs. J'ai vu le Hochereau, j'ai vu le Père Miot, le Père Bélian, des bonhommes comme ça, chasser la nuit. Charpentier, tiens, entrez Charpentier. J'ai vu Charpentier tuer 27 vanneaux d'un coup de fusil. Donc, ils étaient certainement bien mis.
D'un seul coup?
D'un seul coup, oui. Oui, mais parce que c'était des bandes d'oiseaux, c'était des milliers d'oiseaux qu'il y avait. On ne voit plus ça maintenant. C'était superbe de voir ça.
Le marais, ça a toujours été le paradis des oiseaux.
Ah oui. Puis le refuge, c'est là qu'ils se reposent, puis c'est là qu'ils naissent, et puis ils vivent, puis ils ont tout à manger là-dedans. Il y a des vers, il y a tout. Il y a quand même des oiseaux qui sont disparus, la bécassine, on n'en voit presque plus. Même plus. Et notre système de vie actuel, avec nos niveaux d'eau, ça contribue certainement à ce que les oiseaux en restent moins aussi. Il y a quand même moins d'eau l'hiver. On n'a pas d'eau l'hiver. Alors ils vont ailleurs. Heureusement qu'on a créé des réserves comme Saint-Denis. À Saint-Denis, bon, ben, ils ont des niveaux d'eau assez hauts. Ça leur permet de rester, de reposer avant de repartir ailleurs.
La réserve de Saint-Denis-du-Perret, sur laquelle veille passionnément Hugues Destouches.
On entend ce qu'on entend là, c'est les couinements de guffette noire, ce fameux petit oiseau qui est hélas en voie de disparition. Il faut savoir qu'ici, c'est la plus grosse colonie nicheuse de France. Il en niche également en Brière, en Braine et en Sologne. Mais ici, il y a chaque année entre 20 et 60 couples, ce qui est fabuleux, quoi. C'est... Le courlis cendré là, que l'on vient d'entendre en vol utilise le marais d'une façon bien particulière pendant sa migration. Il s'arrête sur la baie de l'Aiguillon pour se reposer, se toiletter uniquement la nuit. Et au petit matin, dès les premières lueurs du jour, cet oiseau-là, donc par petites bandes, va rejoindre ces zones de gagnage. Ces zones de gagnage, ce sont tout simplement les prairies sur lesquelles ces oiseaux-là vont s'alimenter. Et il se nourrit donc d'insectes à la surface du sol, de quelques vers enfouis. Et toute la journée, c'est une activité incessante d'alimentation, parce que ces oiseaux-là ont besoin de s'alimenter pour reprendre des forces, pour pouvoir repartir vers leur zone de nidification. Alors, chaque année, donc, on compte jusqu'à 25 000 courlis corlieux sur le marais, ce qui est assez fabuleux. C'est un passage qui se déroule donc pendant tout le mois d'avril jusqu'au 15-20 mai. Donc c'est la fin du passage des courlis. On en entend encore quelques-uns passer là en poussant leurs cris caractéristiques. Il ne faut pas le confondre avec le courlis cendré qui est encore présent dans la région. Il y a encore quelques courlis cendrés qui traînent ici là sur la réserve ces jours-ci. Qui est beaucoup plus gros, qui a un chant complètement différent et qu'on voit surtout en hiver, celui-là. Il y a deux espèces de courlis. En fait, on les reconnaît très bien, ces oiseaux, puisqu'ils ont le bec recourbé vers le bas. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette morphologie-là. Tiens, on vient d'entendre le chevalier Gambette, qui vient de pousser son chant, son cri d'alarme. Quand cet oiseau-là est cantonné, quand il a délimité son territoire pour nicher, eh bien c'est un oiseau qui ne peut se défendre en fait qu'en alertant les éventuels prédateurs ou les éventuels dangers par ses cris. Et on peut le voir comme ça foncer sur un rapace en poussant ses fameux cris.
Ah, la chasse, il y avait les petits bateaux spéciaux. Quand l'eau était sur les marais, il y avait les bateaux de ce qu'on appelait les petits bateaux de 9 pieds. Quand on était couché juste dedans, puis il y avait ça de bord au-dessus. Fallait pas. Alors, quand on voyait une bande de canards, on se couchait, on avait deux petits bois qu'on avançait. Quelquefois ça réussissait, quelquefois le gibier s'en allait. Mais il y en avait souvent, il y en avait beaucoup l'hiver, là. Principalement au mois de février. Si l'eau était sur les marais, là, il y avait davantage de gibier d'eau.
Il y a des vaches sur cette réserve. Ça peut paraître étonnant. Il faut savoir que toute cette richesse naturelle, tous ces oiseaux-là, ils sont ici grâce à la présence de ces vaches, puisque les vaches en fait maintiennent une strate herbacée, un niveau d'herbe bien ras, et ça empêche en fait à la friche de gagner. Et il n'y aurait pas de pâturage, eh bien on verrait ce milieu complètement se transformer. Il y aurait d'une part une simplification de la diversité botanique, puisqu'on aurait 4, 5, 6 espèces de plantes qui prendraient le dessus au détriment de toutes les autres. Et Si on prend un exemple, par exemple la barge à queue noire que l'on voit là-bas en train de manger, elle a un bec qui fait 10 cm de long et elle se nourrit de lombrics, de vers de terre qui se trouvent dans la vase. Si la végétation viendrait à pousser d'une façon très importante, eh bien, ces barges n'auraient plus du tout accès aux... Alors là, justement, en parlant de ces barges, elles sont en train de partir. Là, on voit les pattes qui traînent derrière et ces bandes à l'air blanches là, sur les ailes. D'ailleurs, avec la tombée de la nuit, là, il y a un petit concert de grenouilles là, qui est en train d'augmenter. C'est pour ça, donc, en fait, que le pâturage est important. Et ça permet aussi de montrer qu'il peut y avoir des activités économiques, des activités humaines, agricoles, compatibles avec, en fait, l'environnement. Et donc, c'est deux choses qui ne sont pas forcément complètement contradictoires. Et qu'on peut faire de la protection de la nature, en fait, avec une activité économique qui est le pâturage, extensif, hein, bien sûr. Un héron cendré. D'ailleurs, il va sûrement se poser à côté de l'autre. Hein. Donc là, c'est souvent un bon coin de pêche. Les hérons aiment bien venir dans ce coin, puisqu'ils attrapent régulièrement des anguilles. Tiens, il vient de lancer. Non, c'est un coup raté. C'est une fausse alerte. Tiens, sur la digue, il y a un nid de chevaliers gambettes. On voit bien ce chevalier là sur son nid. Alors c'est intéressant parce qu'il se met pas sur la prairie, il se met sur les parties dénudées, les zones d'argile complètement dénudées.
Des grenouilles, des chants d'oiseaux. Nous avons sauté de la barque, ici, à Saint-Hilaire-la-Palue, pour rencontrer Louis Briot, qui nous accueille sous un arbre au bord de l'eau. Louis Briot connaît le marais conche par conche, rigole par rigole. Il a été l'enfant qui chasse ou qui coupe l'herbe, le jeune homme qui part danser. Aujourd'hui, il est la mémoire d'une époque qui fascine Jean-Michel Roy.
Là, dans le temps, on faisait tout un peu. L'élevage dans le marais, puis un peu de culture dans la plaine. Au marais, tous les marais étaient desservis par bateau autrefois. On allait faucher à la faux. Alors après, on mettait le foin à Mulan. Et on le charroyait en bateau. On avait ce qu'on appelle des bois, les guimbarges. On a un à l'extrémité, c'était pointu, et à l'autre bout, c'était des poignées. Alors à deux, on passait ça sous le tas de foin, le mulon, ce qu'on appelait le mulon, puis on l'approchait au bord du fossé pour charger dans les bateaux. C'était un travail. Les gens ne voudraient pas le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait les bêtes, on faisait l'élevage dans le marais aussi. Alors, il y avait des bateaux spéciaux, des bateaux de 22 pieds, qu'on appelait ça. On mettait les bêtes dedans, puis on les transportait dans les marais.
Elles y passaient tout l'été, puis après l'hiver, vous les rentriez.
Alors, au mois de novembre, après, on les rentrait à l'écurie.
En principe, à la Toussaint, il fallait que les bêtes soient rentrées, parce que l'eau était susceptible de monter sur les marées.
Ah, dans le temps, les inondations étaient fréquentes l'hiver, presque tous les hivers.
Où arrivait l'eau ici?
Oh, Il y a une marque au coin du mur, là, en 1904, l'année où je suis né. Elle était très grosse. On l'avait montée, là, jusque-là. Là. De l'autre côté, là-bas, elle avait été jusqu'au coin de cette maison. Alors, dans le temps, quand l'eau montait sur les marais, on pratiquait la pêche. On avait une nappe de filet. Qu'on mettait des plans, des gros plans en extrémité et des lièges à l'autre. Alors on barrait suivant le petit courant, puis on mettait des ressorts et des boîtes derrière. Alors ça m'est arrivé de revenir avec 30 livres d'anguilles, mais maintenant c'est défendu ça. La pêche n'est plus ce qu'elle était.
Les anguilles, vous les consommiez, vous les vendiez?
Oh, les
vous... Parce que 30 livres, ça représentait...
Il y avait des marchands, là, seigneurants, m'ont vendu 100 livres. Et autrefois aussi, la pêche était libre. Quand l'eau montée était à niveau des marais, ce qu'on appelait la bourrole, un engin enfilé, comme un carrelet, quoi, ça va être droit, puis un arc derrière, qu'on lassait l'hiver. J'en ai fait dans le temps. Quand l'eau montait, on allait tendre les verveux.
Oui.
On filait, on les laissait deux jours, on allait les relever après.
Il y avait des gens qui vivaient uniquement de la pêche.
Que de la pêche, oui, dans le temps. Parce que dans l'été, après... Avec les boîtes, qu'on appelait ça en bois, ils appâtaient avec des verres ou soit ces petits lumas blancs, là. Ils écrasaient, qu'ils mettaient là-dedans pour appâter les anguilles. Ben oui, mais tout ça, c'est disparu. Parce que depuis que les chemins ont été faits dans le marais, là, tu sais, la pêche n'est plus ce qu'elle était. Il y a beaucoup de fossés qui sont complètement bouchés. Alors le courant ne passe plus.
Vous allez loin autour de la maison, en bateau?
Oh! Dans mon jeune temps, à 20 ans, j'allais à l'herbe à 3 km, même le dimanche matin. Mais le paternel, en arrivant, il fallait décharger le bateau, là, pour avoir la soirée libre. Alors, il fallait travailler dur à la pigouille pour faire le voyage. Ah là là. C'était un travail. Manuel, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui. Autrement, il y avait l'hiver, il y avait deux scieries. Alors, ils abattaient les arbres, puis les charroyaient par l'eau, en radeau. Ils les mettaient par trois. Ça faisait quelquefois 50 mètres. Alors il y en avait qui étaient dans un grand bateau qui poussait chaque côté, poussait la pigouille. Ils n'avaient pas de moteur dans le temps. Dans l'hiver, les Limousins, il y avait 100 fabriques de tuiles là, rien que dans le village du Péré. Alors, en partie, c'était les Limousins qui descendaient. Ils charroyaient là au mois de février, ils charroyaient la terre avec deux bateaux bout à bout, chargés juste que l'eau arrivait au bord. Ils lissaient la terre pour que l'eau ne rentre pas. Alors, ils déchargeaient après à Écaille. Après, ils la transportaient après avec un tombereau et un cheval. Aux ateliers, C'était un travail. Quand il faisait froid, ben, vous savez, ils n'avaient pas chaud aux mains à pousser à la pigouille.
Ce n'est pas vous qui fabriquiez la pigouille?
Si. Si, on a un bois, l'aubier, qui pousse alors au bout de 3-4 ans, vient droit, alors après on le laisse sécher, puis alors on a des brins de fer fourchu avec une tige, puis un anneau qu'on emboîtait, servir, puis après les pelles, la rame, quoi, ce qu'on appelle la rame.
Et le bateau, vous ne le fabriquez pas?
Ah non. Oh, il y avait 400 fabriques de bateaux. Dans le temps, c'était les bateaux au bois. Maintenant, ça n'existe plus non plus. Chez nous, toujours.
Vous avez encore un bateau?
Oui, oui. Ah oui, parce que j'ai une fruitière de l'autre côté du courant, là. Alors...
Ouh, le travail du marais était limité. Bon, ben, il s'est soldé... Chaque ferme avait 3 ou 4 vaches laitières, voyez-vous. Alors on s'occupait de ces vaches le matin et le soir. Donc c'était pas un gros travail, vous allez dire. Mais il fallait porter le lait. Comme ici, il fallait rapporter le lait de la ferme. Ici, le propriétaire venait tous les jours porter le lait au village. C'était lui-même, puisqu'il était tout seul, qui le faisait. Station votre canne de... Ensuite, vous savez, bon, il y avait peut-être quelques volailles, mais il s'occupait de la pêche. Parce qu'il venait porter son lait, avec son fusil et ses engins de pêche qui étaient tendus à droite à gauche. Vous, on vivait surtout à l'époque de chasse et de pêche. Alors il tuait un canard ou il n'en tuait pas, mais enfin il essayait. Il levait ses 4 ou 5 engins de pêche, il avait quelques anguilles, 2 ou 3 poissons, et bon, ben, sa matinée était passée. Puis l'après-midi, bon, ben, soit il fondait du bois ou il faisait du bois. Tous les frênes que vous voyez ici sont des frênes de production de bois. Et vous avez le pied qui est très gros, en bas, et les branches dessus, ces branches, ça c'est une repousse. Vous voyez, partout, les branches sont coupées tous les 8-10 ans, ou plus, ou moins. Et le bois de frêne est une récolte pour le chauffage. Alors donc, tout l'hiver, le gars du coin faisait du bois, éventuellement en vendait.
Je suis né là-dedans, j'ai vécu là-dedans. Il n'y a pas très longtemps, un ami qui est un voisin de Jean-Michel Leroy m'a montré un parchemin qui traitait d'un jugement rendu à l'encontre de mes présumés ancêtres là, devant l'église, sur la place du Banneau. C'était en 1613. Et là, je vais vous surprendre, mes ancêtres étaient laboureurs à bœufs et gardes des talons. Alors, j'imagine qu'à l'époque, ils avaient des étalons royaux et qu'ils devaient, à ce titre-là, assurer la production de l'élevage équin dans la région. Et puis, ils étaient laboureurs un peu. Alors, bon, nous, on a donc vécu de façon traditionnelle dans ce marais. On s'est élevé dans ce pays. On a vécu avec des préoccupations qui étaient celles, en quelque sorte, de l'ensemble... des habitants du marais, il y avait une sorte d'unité au fil de l'eau qui se créait au fil de l'eau, quoi. Oui, c'est ça, une sorte d'unité, d'identité. Et puis, voilà que, si on peut dire, les valeurs ancestrales sont complètement bafouées, elles ne rentrent plus à l'heure actuelle dans le cursus, si je puis dire, de la productivité contemporaine. Alors c'est bien ça le grand drame, le marais n'est pas porteur d'investissement en matériel lourd comme dans les autres régions agricoles. Et ce pays qui avait une vocation pastorale, beaucoup d'élevage dans le marais, est en train de sombrer dans la friche. Et vous voyez là juste en face de nous, ce qui était magnifiquement entretenu il y a... Moi, je l'ai connu dans mon enfance. Hein. C'était les premiers endroits où on allait en barque couper l'herbe et donner les... à coups de faux, quoi. Hein, les premiers coups de faux, sitôt au printemps, c'était là. On coupait l'herbe, tout ça était propre, était magnifique. Et on ramenait l'herbe à la maison par ces petits fossés, là, ces petits arrivages, là, sur le côté. Alors, personne ne veut plus le faire, bien sûr. Il y a un parcellaire qui complique énormément la situation. Et en plus, ce qui est certain, c'est que il y avait aussi une forme de pluralité dans les activités des gens qui habitaient ici. La plupart étaient sabotiers, fabriquaient des sabots de bois. Tout le monde marchait en sabots de bois. J'ai moi-même marché en sabots de bois pendant la guerre, puisque j'ai du mal à trouver des chaussures autrement. Alors ces gens-là exploitaient les aulnes qui poussent. Vous voyez, on en a un là au coin. Là. Alors, au coin, ces feuilles-là qui ressemblent un peu au noisetier. Alors ils s'entendaient tous très bien d'ailleurs, ces gens. Ils avaient plusieurs choses en commun. Donc ils étaient sabotiers, ils allaient faire tomber leur arbre ensemble. Ils appelaient ça jeter un vergne, puisque l'aulne, on l'appelle le vergne, nous, là, en termes communs, quoi, en fait. C'est l'aulne. Et puis, ils rentraient le bois par petits billots derrière la tête du bateau. La charte d'herbe était devant. Et ils arrivaient, là, quotidiennement, là, dans ces petits fossés, alors soigner leurs quelques vaches, trailler les vaches, le laitier passait le matin, emporter le lait. Bon, alors vous voyez, il y avait une forme de revenu de cette façon-là. De l'autre côté, la fabrication des sabots de bois, une partie était fabriquée sur place, était utilisée et vendue sur place par les gens du pays. Mais comme ils étaient tous sabotiers, là, alors on ne pouvait pas tous les faire vivre. Et régulièrement, ils chargeaient leur barque de sabots et descendaient à Marin. Vendaient leurs sabots là-bas, sur place. Vendaient leurs sabots aux marins pêcheurs, à toute la population de la côte. Puis on montait avec le sel, entre autres, les différents produits, quoi. Bien sûr, ce mode de déplacement est révolu, surtout pour les déplacements nocturnes. Mais le fait est que, dans le temps, je vous parle de ça avant la guerre 39-40, quoi, toute la population des musiciens, ils étaient une bonne douzaine de la région de Coulon et des bords de Sèvres, se réunissaient, l'appareil. La barque descendait, appelait d'un petit coup d'instrument en passant devant la maison, l'autre qui bien sûr attendait et sautait dans la barque et il s'en allait. Et au droit du bief du Vanneau, là, il y avait la mère Émone qui avait chez elle son fils qui partait aussi à la musique et quand même était inquiète parce que la nuit était sombre. Alors elle dit, oh mes pauvres enfants, vous n'allez pas vous en aller comme ça, attendez, je vais vous donner une lanterne. Alors, elle disait ça dans sa langue naturelle, il va vous donner une lanterne. Alors, nos gaillards n'avaient pas plus de place que ça pour tenir une lanterne, parce que la barque était déjà bien chargée. Et ils placent la lanterne sur la tête du bateau, et les voilà partis à pousser le bateau hardi-timbant, et à cet âge-là, on a la force, et à y aller à toute vitesse. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que, même avec la présence de la lanterne, c'est qu'un arbre avait été couché par la tempête sur le canal, sur le bief, et la barque a heurté, alors là, directement dans le tronc de l'arbre, là, ce qui fait que tout le monde s'est retrouvé, par miracle, au fond du bateau. Il n'y a que la lanterne qui, elle, est tombée au fond du bief, et je crois pouvoir dire qu'à ce jour, elle y serait encore. Voilà. Alors nos musiciens arrivaient au Vanneau, là, tranquillement. Ils attachaient leur barque au port, et puis ils montaient à pied. Ils retrouvaient ceux du Vanneau qui montaient à pied. Ils passaient la répétition, et sous le coup, dans 1h30, minuit, reprenaient leur barque et rentraient chez eux dans la nuit.
Alors, il y avait le boulanger de Saint-Sigismond qui, lui, faisait 6 km à pied pour rattraper aux cabanes de la Sève un autre fidèle musicien et acharné, Émile Bourdin. Il faisait 3 km en bateau, 2 km à pied, et à 11h30, après la répétition, on les entendait avec leurs sabots de bois repartir, paf, 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 peta, peta, refaire les 2 km à pied en direction du bateau, prendre le bateau, s'en aller jusqu'à la Sève, et de là, le boulanger avait encore 6 km à faire, ce qui fait que quand il arrivait, il a tout juste le temps de se mettre à sa fournée et à pétrir son pain et pour que tout soit prêt le lendemain matin. Alors c'était comme ça.
La barque descendait. Un coup d'instrument en passant, l'autre musicien sautait dans le bateau et ils s'en allaient tous les deux vers une répétition, vers une fête. Souvenir de Jacques Cardineau que nous partageons aujourd'hui. Image perdue, retrouvée, perdue de nouveau. Pour Jacques Cardineau, comme pour quelques maréchins, le marais est un lieu de réminiscence, d'écho. Prendre le bateau sous la pluie, dériver le long des conches, c'est retrouver le temps perdu. Musicien en barque, vie d'autrefois, assemblée de fêtes, seuls demeureront les voix aujourd'hui. Mais l'oubli nous appartient. Saint-Hilaire-la-Palue, Louis Briot.
Il y avait les assemblées de chaque village. Ça durait 2 jours. Mais autrement, les fêtes locales, c'était des fêtes locales, quoi. Ils avaient une date à peu près fixe au cours de l'année. Ça commençait à Nimbou, puis alors ça... Ça finissait alors, ça se suivait. Et autrefois, quand on allait au mariage, les jeunes, c'était le melon. Ah oui, j'ai encore le mien, là, qui servait à la note villageoise, là, quand on la faisait. Autrefois, oui, tous les jeunes avaient leur melon quand on allait au mariage. Ah oui.
C'était devant l'église, là. Vous voyez ? Alors, c'est nous, là, au milieu. Les deux sœurs, là, de Marie. Alors, là, c'est du filet, les jeunes filles, puis les jeunes gens.
Les robes, les vieux, hein.
C'était des robes longues.
Les hommes qui dorment là-dedans, hein.
Voilà, c'est encore nous. Oui. Oui.
Pareil, là, c'est là, encore un costume notre... pour un mariage ou à Pâques.
Oui.
C'était pour un mariage, vous n'achetez pas un costume. Un costume à notre époque pour un mariage. On allait au coiffeur, la femme allait au coiffeur pour un mariage. Elle n'allait pas au coiffeur tous les 15 jours, et toutes les semaines.
Ça faisait. Ça faisait pas mal de. D'un tas de groupes petits, là.
beaucoup chez nous sont mariés comme ça.
Alors là, c'est à l'église.
On n'avait pas de moyen de locomotion, on fréquentait sur place. Aujourd'hui, vous allez à Paris en voiture, vous allez. Moi, mes enfants sont mariés, j'en ai un à Loire-et-Cher, j'en ai un autre à Paris, j'en ai. Nous, c'était pas notre cas. Les déplacements, c'était à pied, en vélo ou en bateau. Donc, ma femme était sur le bord du canal, 1 kilomètre plus loin, 2 kilomètres plus loin, le bateau, j'allais la voir comme ça. Voilà. C'était très, très solennel. Ah oui. C'était vraiment solennel.
C'était facile pour les garçons de rencontrer des filles.
Oh, autrefois, quand on allait au bal, tous les jeunes du village, garçons, les filles, se rassemblaient toutes. S'en allaient bras dessus, bras dessous au bal. Et les jeunes, l'hiver, là, on faisait des veillées. Il y avait le violon, les Prado, les frères Prado dans le temps. Et Clovis Tessier qui jouait du violon. Alors avec les Prado, il y avait Marcelin Babot, qui vit encore, qui a 101 ans. Et il joue encore du violon. Et puis, Richard, à Mosée, qui jouait de la clarinette. Oh, il y avait de l'entrain dans les balles à ce moment-là, vous savez. C'était des gens de chez nous, là.
Bon, ben, les veillées, on se rassemblait deux ou trois familles dans la même ferme. C'était un roulement, c'était une habitude. Ça durait du mois de novembre jusqu'au mois de mars. On allait en barque, on allait à pied, plus ou moins à pied les trois quarts du temps, ou en barque, oui. Et puis on jouait aux cartes, on chantait. Il y avait un grand-père qui pouvait jouer d'accordéon, danser sur des places en ciment. On jouait aux cartes. Après, le patron de la ferme, vers minuit, on allait faire un tour dans les écuries, on regardait le bétail. C'était un petit peu une petite fierté. Hein, regarder le bétail, et puis on revenait, il se mettait à table, là, puis cassait bien la croûte. Soit parce qu'il y avait eu la cuisine du cochon quelques jours avant, soit parce que c'était autre chose, des crêpes, des gaufres, des trucs comme ça. On se fréquentait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas pareil. C'est tout changé. C'était comme les mariages à l'époque, puis les mariages aujourd'hui. Nous sommes mariés, trois, mes deux sœurs et moi, trois dans le même jour, dans la commune. Ben, je vous dis que la commune, il y avait du monde. Aujourd'hui, ben, on ne pourrait pas faire une chose pareille. Comment voulez-vous faire un mariage avec 250 personnes? Ça coûterait combien? Ça durait 3 jours. Le mariage à l'époque, c'était 3 jours. Il y avait la veille, il y avait le jour des noces, il y avait le lendemain. Alors là, ça buvait, oui. Là, ça buvait, oui. Moi, j'ai vu souvent une noce comme ça, à Saint-Barrique demain. On était tous cultivateurs, on fournissait le mouton, le veau, le lait, les poules, tout venait de la ferme. Les gâteaux étaient faits par la maîtresse de maison. Le vin était récolté ou acheté dans le bocage, c'était pas des poux. Faut voir les menus à cette époque. Il faut voir ce qui s'est mangé. Manger, il n'y avait pas de cholestérol à l'époque. Ah, sûr. C'était les fêtes, c'était des fêtes dans les. C'était nos fêtes à nous, quoi. Les baptêmes, les mariages, les communions. C'était ça, c'était la fête dans le pays, quoi. Tous les amis étaient là. Puis la tenue était de rigueur, hein. On n'allait pas à un mariage comme samedi, j'étais à un mariage, moi. Non, mais. Aujourd'hui, il n'y a pas de cravate, il n'y a rien. Quoi. Enfin, c'est le temps qui est comme ça, c'est comme ça. Mais à l'époque, il y avait le chapeau mou, puis la cravate toute la journée par un gros soleil bien serré, la chemise blanche, puis le costume. Puis, ne t'enlevais pas le veston pendant le repas, hein, faut pas y compter. Hein. Le bonhomme, il cassait la croûte pendant 4 heures avec son veston, ça transpirait de partout.
Alors là, on arrive dans un endroit qui est un peu particulier, ce fossé-là, puisqu'on appelle ça un fossé. Celui-ci, c'est un fossé. On a eu la Conche, on a eu le Bief, on a eu la Riole. Là, c'est un fossé. Ce fossé porte le nom de Bois-Renault, le fossé de Bois-Renault. Et comme vous pouvez voir, à votre droite, l'altitude du terrain monte assez rapidement. Il faudrait peut-être que vous vous mettez debout pour l'apercevoir. Il ne faudrait pas qu'on fasse de faux mouvements. Vous voyez, la berge monte au milieu du terrain là, assez rapidement. Il y a des buissons d'ailleurs dessus là. Alors, il y a toujours une petite part de légende. Vous savez peut-être que Rabelais avait fait quelques études à l'abbaye de Maizé, pas très loin d'ici. Alors, on prête à Gargantois d'avoir traversé le marais en 300 jambées et d'avoir laissé ici la terre qu'il avait à la semelle de sa botte. Alors, voilà. L'histoire du fossé de Bois-Renault et de la langue de terre là qui a grossièrement la forme d'une semelle de botte. Enfin, datant de l'époque de Gargantois, ça devait être quelque chose de très élaboré comme chaussure à cette dimension-là. Ah, je voudrais vous montrer aussi à la tête de ce tronc d'arbre qui est cassé là-bas, il y a quelques trous dedans, là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il y a des trous là-bas. Alors, ces trous sont faits par un oiseau, le pic-vert. On entend marteler au printemps là, pour faire sortir les insectes. Et là aussi, il y a une légende qui prétend qu'au moment de la création du marais, Dieu avait demandé à un personnage sûrement de l'envergure de Gargantois, on appelait le grand Recalou, de creuser le marais. Alors c'est un homme qui avait une main très grande à l'ouvrage. Et tous les oiseaux, il avait demandé à tous les oiseaux de venir avec lui travailler. Alors il avait tous les oiseaux autour de lui à creuser, à ramasser les miettes, enfin bref. Mais le pic vert, lui, le pigre là, on l'appelle comme ça, lui n'avait pas voulu s'abaisser à ce genre de travail. Il prétendait avoir la plume trop bien lustrée, sans doute, enfin, il n'a pas voulu travailler. Alors donc, quand l'ouvrage a été à peu près fini, quoi, le grand Recalou s'était installé sur un tronc d'arbre pour enlever ses grandes bottes, et puis il avait des bottes avec des gros sabots de bois et des grandes gaines en cuir qu'on attachait à la ceinture. Pour descendre dans les fossés, quoi. Et puis alors, tout autour de lui, il y avait tous les oiseaux qui s'amusaient, ils chantaient. Alors, en sortant le casse-croûte de sa musette, eh ben, il y avait des petites pattes qui tombaient, alors les oiseaux venaient ramasser les miettes. Et puis à la fin, il était tellement content, il leur dit, tiens, ben, je vous donne même le crouton de ma miche. Alors, il garoche le crouton de la miche, et il leur dit, puis c'est même pas le tout, les enfants, vous voyez, je me sens pas bien, et ben le marais sera vous. Il y a une condition, c'est que le pigrola ne vienne jamais boire dans les rivières qu'il n'a pas voulu creuser. Alors depuis, le grand Calou est donc décédé. La légende précise aussi qu'il aurait une place particulière dans la loge de Saint-Pierre au paradis pour avoir toujours un œil sur le marais et surveiller que le pigrola en question ne vient pas boire dans les conches. Alors c'est pour ça que l'été, quand il fait très chaud, très sec, il fait le tour de tous ses trous pour voir s'il n'y a pas un petit peu d'eau dedans, et on l'entend râler en quelque sorte, appeler l'eau après la pluie, quoi. Cet oiseau, en fait, ne boit pas dans l'eau.
Comment se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, quand rien n'est certain, rien n'est fixe, que les eaux viennent et se retirent selon des plans mystérieux, et que le paysage autour de nous, mélange de terre, d'eau, de ciel et de feuilles, paraît refléter à l'infini un principe d'indécision. Ce pâturage devant nous, cette pépinière, demain seront inondés. Ce tertre sera une île ou un écueil. Ces berges disparaîtront. La création ici n'est pas achevée. Elle se poursuit ou s'effiloche lentement, insensiblement. On la voit encore hésiter entre la boue et la lumière. Jean Dumarais, Mehdi El Hadj, Jean-Pierre Gerbault, Jean-Pierre Milovanov. En cabine, Pascal Bénard, Jean Fèvre. Dès aujourd'hui, René Maté, Claude Chollet, Jacques Cardinaux, Francis Panetier, René Louis, Jean-Michel Roy, Louis Briot, Hugues Destouches.
« 1963-2023, les iconiques de France Culture, une centaine de fictions, émissions de création, grands reportages, documentaires historiques, 60 ans d'histoire de radio à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France ».